Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 1000 questions à la fois, votre émission chrétienne qui permet d'éclairer le contenu de la foi, de mieux comprendre les Écritures ou de percer les méandres de notre vie spirituelle. Depuis 2017 et l'affaire Weinstein, ce producteur de cinéma américain condamné pour viol et agression sexuelle, la parole des femmes s'est libérée dans la société. Le mouvement MeToo, moi aussi, est emblématique de ce phénomène. Dans l'Église aussi, nous savons aujourd'hui que des crimes ont été commis en toute impunité. À l'heure de MeToo, les femmes fortes de la Bible peuvent-elles inspirer les femmes d'aujourd'hui? C'est la question que je pose à mon invité du jour, le jésuite Erwan Chauty, bibliste, enseignant au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Bonjour Père.
Bonjour Florence.
Alors, qui sont les femmes fortes de la Bible? Quelles sont ces femmes?
Il y en a beaucoup et je dois dire que j'ai d'abord une figure d'une femme forte d'aujourd'hui qui est l'exégète autrichienne Irmtraut Fischer. Elle a écrit 3 livres traduits en français, des femmes aux prises avec Dieu, des femmes messagères de Dieu, femmes sages et dames sagesse de l'Ancien Testament. Donc il suffit de piocher dans ces 3 livres pour en trouver énormément. J'en mentionnerai quelques-unes, Déborah et Yaël, Judith, la femme anonyme qui fait une onction de parfum très cher à Jésus, et puis les femmes qui servent les disciples en Luc 8.
Alors, racontez-nous un petit peu quelles sont les histoires de ces femmes. Alors déjà, celles de l'Ancien Testament, peut-être, pour commencer.
Je commence par l'Ancien Testament, oui. Déborah et Yaël, c'est le livre des juges. Donc, on est déjà en terre promise, mais il n'y a pas encore de monarchie. Donc, c'est assez anarchique. Et le peuple d'Israël est opprimé. Et Déborah est prophétesse et elle charge un chef de guerre de mener la bataille pour libérer Israël. Mais elle lui dit, c'est par la main d'une femme que le Seigneur va sauver son peuple et c'est pas par ta force, toi, d'homme. Alors on se dit, tiens, ça va être elle qui va gagner. Mais elle ne fait qu'assister au combat. Miraculeusement, les ennemis s'en vont et le chef des ennemis s'en va et arrive dans la tente de Yaël, croyant finalement qu'il va bénéficier du repos du guerrier. Disons, pas besoin d'expliquer. Mais il s'endort et Yaël prend un piquet de la tente et lui enfonce dans la tempe et ça ressort de l'autre côté. C'est comme ça que l'ennemi d'Israël meurt. Et il y a un cantique après qui montre que les auteurs ont parfaitement compris que Yaël reprenait le motif classique du viol de guerre et du repos du guerrier, mais pour le retourner, pour faire que c'est la femme qui est faible dans ce contexte, qui est vainqueur, pas par la force, mais par la ruse et l'obéissance à la parole de Dieu. Une autre figure, c'est Judith. Alors, elle a tout un livre à elle. Alors là, on est aussi dans des fictions, hein, des histoires inventées pour dire la foi d'Israël. Et Judith, c'est un moment où le peuple d'Israël dans la ville de Béthulie est assiégé. Ils croient qu'ils n'ont vraiment aucune solution pour s'en sortir et qu'ils vont devoir se rendre. Et elle dit, pas question, j'y vais. Et alors, elle drague le chef. Elle met ses plus beaux vêtements, elle se baigne, elle se parfume, elle met ses bijoux. Il fait un festin, elle se couche devant lui sur des peaux de bête. Il s'enivre, fait sortir tout le monde en se disant « je vais la posséder ». Il va dans son lit, mais s'endort. Et là, Judith trouve une épée et en 2 coups d'épée, le décapite et sauve ainsi le peuple d'Israël. Vous voyez, donc c'est des figures qui sont dans des contextes de violence et de domination masculine, de tout ce qu'on peut imaginer.
Et d'oppression du peuple, en fait.
Et d'oppression du peuple, et qui s'approprient des codes de leur époque pour les subvertir et pour montrer une victoire par les femmes, par la force de Dieu, autrement que par la pure force militaire et la force masculine.
Et d'ailleurs, Judith, qui est une femme veuve, restera veuve toute sa vie et vivra de manière très émancipée, finalement, toute sa vie, en fait.
Voilà, alors que comme veuve, on nous dit à la fin, tous les hommes, du coup, de son peuple veulent l'épouser. Et elle réussit à rester veuve et célibataire.
Alors, est-ce qu'on peut... Finalement, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces femmes, de ce qu'on peut vivre en termes de relations plus justes, peut-être aussi.
Alors, c'est une question pas simple parce que la Bible nous offre pas des modèles à appliquer. Il y a un texte récent de la commission biblique qui nous dit qu'il faut faire la part dans les récits bibliques entre la culture environnante et la révélation de Dieu. Donc, la Bible nous montre pas des exemples de ce qu'on doit faire aujourd'hui, mais elle nous montre des forces de transformation dans les contextes. Moi, je crois que le plus marquant pour une perspective chrétienne, c'est ce que fait l'Église dès le début, dès sa fondation. elle fait accéder les hommes et les femmes au même rite fondateur. Les hommes et les femmes reçoivent le baptême et reçoivent l'Eucharistie. Donc on n'est plus du tout dans des marques d'appartenance comme la circoncision ou des choses comme ça, qui sont spécifiques à un genre et pas à l'autre.
D'où effectivement aussi ces femmes dans Luc, dont vous parliez, qui sont avec les disciples en fait.
Voilà, il y a dans l'évangile de Luc des femmes qui suivent Jésus tout au long de son ministère, il n'y aura plus qu'elles au pied de la croix. Et il y a une scène très étrange, très marquante, où Jésus et les douze sont là, ils annoncent, ils prêchent, et puis une série de femmes, dont Marie-Madeleine, sont là, et on nous dit, alors les traductions disent, bah, elles font la cuisine en gros. Mais si on regarde le grec, le verbe, c'est le verbe diakonéo, le verbe qui donne le mot diacre. Et puis, il y a le nombre 7 qui apparaît des sept esprits. Donc, on a l'impression qu'on a un groupe où on prêche l'évangile, mais où en même temps, la question du service de la communauté est tenue par un groupe de femmes. Et alors, dans le deuxième livre de Luc, les Actes des Apôtres, ils ont un problème, Jésus n'est plus là. Et puis, qui va s'occuper du service des tables? Et là, on instaure les diacres et on choisit sept hommes. Et on a envie de se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de l'évangile avec Jésus, où c'est les femmes qui avaient ce rôle communautaire, et quand Jésus n'est plus là, on donne ce ministère à des hommes. Voilà, il y a quelque chose au temps de Jésus dont les Écritures nous donnent une trace qui est difficile à cerner, mais qui semble montrer une responsabilisation très profonde et très inattendue des femmes autour de Jésus.
Alors, comment aujourd'hui... Enfin, voilà, comment s'en emparer aujourd'hui? À quoi ça nous invite? Si je reprends Judith, elle prie avant de... Elle met en place une stratégie avec Dieu. Et elle prie avant d'y aller, pour sauver son peuple. Les femmes dans Luc, elles collaborent, on pourrait dire, avec les hommes pour le service de Dieu, en fait.
Oui, alors... vous avez tout à fait raison de dire que Judith prie, mais elle prie et c'est pas pour ça qu'elle n'agit pas et qu'elle attend que Dieu fasse tout. Au contraire, hein, c'est un livre étrange où on nous dit quasiment jamais que Dieu agit. C'est Judith qui agit après avoir prié. Donc ça c'est une chose très forte. Je crois que la Bible nous transmet une exigence très forte de respect et comme vous évoquiez les questions d'abus sexuels, de respect de l'intégrité. De la conscience, de l'esprit, du corps, des relations et l'égale dignité de chacun devant Dieu. Donc c'est à chacun et à chacune d'entendre cela et de trouver les chemins pour l'accomplir davantage aujourd'hui.
Je reviens à ces femmes fortes. En quoi sont-elles fortes?
On en voit... je pense à Rebecca. Mmh. Vous savez, Rebecca, elle avait deux fils, deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Et Ésaü, c'est celui qui est velu et qui passe son temps à la campagne. Et Jacob, donc c'est les deux frères jumeaux, mais qui est né juste après, qui reste à la maison. Et au moment où le père doit transmettre la bénédiction et l'héritage, il est devenu aveugle. Il envoie son fils aîné, Ésaü, à la chasse pour lui faire un rôti de quelque chose, et la mère prend le deuxième fils, lui donne un animal du troupeau, lui met des peaux de bête sur les bras pour que le père le touche et le confonde, et s'arrange pour que ce soit son fils préféré qui reçoive l'héritage. Et en plus, le fils préféré, Jacob, il semble beaucoup plus conforme à ce qu'on attend de cette grande lignée des patriarches qui fait alliance avec Dieu. Elle n'affronte, c'est très étonnant, elle n'affronte jamais frontalement son mari pour lui dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Mais elle utilise toutes les ressources à sa disposition pour faire dévier le cours de l'histoire.
En fait, on peut dire que finalement, elle renverse une situation quand même.
Oui, elle la renverse.
Merci Erwan Chotti d'être venu parmi nous et de nous avoir invités finalement à lire la Bible, peut-être aussi avec un regard neuf parfois. Je vous remercie beaucoup d'être fidèle à 1000 questions à la fois, l'émission en partenariat avec croirelacroix.com. On se retrouve la semaine prochaine.